Son esprit est aiguisé, c'est le chevalier des jardins, c'est Alain Baraton et sa main verte. Récompense ce matin, Alain, ne parlez pas encore, puisqu'on va parler précisément du prix VMF, Jardin Contemporain Patrimoine Récompense, exceptionnellement deux candidats, Alain.
Oui, mais Laetitia, avant de parler des prix, précision sur l'Association des vieilles maisons françaises. Cette association est née en 1958 et elle s'est donnée pour mission la sauvegarde, la défense et la mise en valeur du patrimoine architectural et de son environnement. Et le prix dont il est question ce matin a pour objet de récompenser la création ou la réhabilitation de jardins dans des lieux chargés d'histoire.
Et pour l'année 2018, donc cette année, Alain, ce prix récompense des jardins réalisés durant les 30 dernières années en harmonie avec un bâtiment de qualité.
Et comme vous l'avez dit, il y a pour cette nouvelle édition non pas un, mais deux lauréats. Mais comme vous le savez, abus de bien ne nuit pas. Alors le premier jardin primé est celui de l'abbaye de Combelongue dans le département de l'Ariège.
Et forcément, on a un peu besoin d'histoire pour comprendre. Hein.
Alors les origines de cette abbaye remontent à 1138. Elle est construite en briques dans un style mêlant le roman au Mudéjar. Le Mudéjar, c'est une architecture inspirée du monde arabe. Lorsque le propriétaire acquiert cette abbaye en 1991, eh bien, elle menace de tomber. Elle est vraiment en ruine. Et son nouveau propriétaire décide alors de lui redonner sa structure sans pour autant, et c'est ça qui est exceptionnel, dénaturer l'esprit des lieux.
Et le jardin est lui aussi réhabilité ?
Alors, monsieur Merguet Avanzi, l'heureux propriétaire, achète ensuite les terres avoisinantes et replante en quantité des arbres, alors des marronniers, des hêtres, des tilleuls, des charmes. Une prairie rustique prolongée par un paysage campagnard sert d'écrin à cet ensemble et les haies sont remises là où elles étaient autrefois. Le résultat est une réussite. Tout est à sa place, en harmonie avec le génie du lieu et avec une élégante simplicité champêtre. Quand on arrive dans cette abbaye, enfin à côté, on a l'impression que les haies, que les arbres ont toujours été là. La réhabilitation est vraiment une très grande réussite. Peut-être pour cette raison d'ailleurs que depuis 2013, le jardin est qualifié de remarquable.
Ah oui, quand même.
Eh ben oui.
Et le second primé, c'est le jardin des 500 en Haute-Savoie.
Je ne sais pas si vous vous en souvenez, nous en avions parlé ensemble il y a quelques années déjà. Et j'en profite pour dire que vous ne vieillissez pas.
Vous êtes formidable.
Ce château, il est situé à Ivoire, petite commune située sur la rive française du lac Léman. Le château qui était le donjon de l'ancien village fortifié construit au début du 14e siècle. Et ce château surplombe le lac. En 1986, sous l'impulsion de monsieur et madame d'Ivoire. Ça, c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte que la famille donc, habite les lieux depuis maintenant le XVIIe siècle et habite les lieux, enfin le nom de la ville et leur nom à eux. Donc les Ivoires habitent la ville d'Ivoire. Je trouve ça grandiose. Et bien, toujours est-il que la famille propriétaire des lieux commence par la création d'un espace conçu sous forme de labyrinthe et caractéristique des jardins du Moyen-Âge. L'occasion de préciser d'ailleurs que demain dimanche, je parlerai des labyrinthes parce que d'où viennent-ils? Qui a créé la mode des labyrinthes en France? Vous verrez, c'est passionnant. Alors aujourd'hui, retournons, si vous le permettez, en Haute-Savoie. Eh bien, les salles cloisonnées par les haies constituent un lien, un intérieur raffiné et protecteur, tout en maintenant le lien avec le paysage. Imaginez, vous arrivez, en fond, le château, le lac et le village. Alors le lieu, vous en doutez, a été classé lui aussi jardin remarquable en 2004, en 2010 et en 2016. Et j'en profite pour rappeler, parce que souvent vous me taquinez, Laetitia, en me disant, dites que vous venez de ma part, ce sera gratuit. Non, les accès au jardin sont souvent payants. L'occasion de rappeler que quand on donne une petite pièce à l'entrée pour visiter un jardin, eh bien c'est ce qui permet au jardin justement de vivre et d'être entretenu.
On passe aux questions des auditeurs, si vous le voulez bien, Alain. Quelle est la hauteur d'un piracanta à l'âge adulte? Et c'est la question de Nicole. Et j'ajoute cette question de moi-même, Alain. C'est quoi est-ce qu'un piracanta?
Un piracanta est un arbuste que vous connaissez parfaitement. On l'appelle aussi buisson ardent. On en voyait beaucoup il y a une trentaine d'années, un petit peu moins. Je ne dis pas qu'il est passé de mode, on en voit un petit peu moins. C'est un arbuste qui est caractéristique parce qu'il est épineux et surtout qu'il produit quantité de baies colorées, le plus souvent orange ou rouge. Quantité de haies sont constituées avec des piracantas. Et on a l'impression que ces arbustes atteignent 2-3 mètres de hauteur, 4 avec difficulté, parce qu'on les taille, voyez-vous. Or, si vous laissez au centre d'une pelouse, en situation, j'allais dire, très ensoleillée, un piracanta, il peut grimper allègrement, et quand je dis allègrement, 6, 7, voire 8 mètres. J'en ai vu très haut. Alors, l'occasion également de rappeler que les baies attirent quantité d'enfants qui ont tendance à les porter à la bouche. La plante n'est pas comestible, mais elle n'est pas non plus gravement toxique. Donc, même si un petit gamin venait à consommer une boule, c'est pas du tout un drame. Donc, on peut en planter vraiment partout. La plante est épineuse, comme je vous disais, idéale pour faire ce que l'on appelle des haies défensives. Donc, le piracanta, oxyacanta, pour répondre à votre question, peut atteindre 6 à 7 mètres sans aucune difficulté.
Et c'est parfait pour que vos voisins ne rentrent pas chez vous, en fait.
Bah, faut éviter. Il y a d'autres plantes beaucoup plus impressionnantes d'un point de vue épine. Mais il est vrai que les plantes dites défensives permettent parfois, pas seulement le voisin un peu indélicat, mais un animal parfois viendra pas y laisser quelques poils. Ça peut être intéressant, oui.
Lucas a cette question, Alain Baraton. J'ai sur un terrain que je loue des arbres morts. Alors, qui est en charge des frais d'abattage, le locataire ou le propriétaire?
C'est très compliqué parce que tout dépend de votre bail. Si l'arbre est mort suite à des tailles que vous avez vous prodiguées en tant que locataire et s'il est prouvé que les tailles ont été responsables de la mort, il peut être demandé que ce soit vous, locataire, qui preniez en charge les frais d'abattage. Mais en règle générale, je dis bien en règle générale, sauf cas particulier, l'abattage est à la charge du propriétaire du terrain.
Ah d'accord, ok. Bon, oui. Moi c'est dit. Lucas, vous savez ce que vous avez à faire. Si vous avez tué votre arbre, c'est tant pis pour vous, oui. Mais autrement, c'est dit.
L'occasion de rappeler, par exemple, que quand vous avez un arbre mitoyen, enfin un arbre qui est près de chez le voisin et qui vous dérange, le voisin a parfaitement le droit d'exiger de couper les branches, ou du moins de faire couper les branches après votre accord. Il ne peut pas intervenir seul. Le voisin a parfaitement le droit de couper les racines à l'aplomb de sa propriété, sans même vous demander l'autorisation. Mais attention, si cette action avait pour conséquence la mort du végétal, il peut être poursuivi par les tribunaux et payer des indemnités. Donc vous voyez, de temps en temps c'est un peu compliqué, on a le droit de couper les racines, mais si vous les coupez et que l'arbre meurt, alors il vous en coûtera.
Mais question bête, un arbre mort, comment on sait qu'il est mort?
Alors un arbre mort est un arbre qui généralement ne produit plus aucune fleur, aucune feuille. L'occasion de rappeler qu'il faut être prudent. On a de la sécheresse, on a eu beaucoup de sécheresse en juillet, un petit peu moins au mois d'août, la pluie est revenue un peu partout. Et quantité d'arbres ont perdu leurs feuilles. Nous sommes à un ou deux mois de l'automne. Certains arbres aujourd'hui n'ont pratiquement plus de feuilles. Ils peuvent parfaitement redémarrer au printemps prochain. J'ai également vu des conifères, vous savez qu'il existe des conifères qui perdent leurs aiguilles en hiver. Je pense aux mélèzes, je pense aux cyprès. Et j'ai vu des gens couper des conifères en hiver, disant « il est mort, il n'a plus d'aiguille ». Faux, il est caduque, c'est pour ça qu'il n'en a plus. Donc le mieux, quand on doit abattre un arbre, s'assurer qu'il est vraiment mort. Un arbre mort est un arbre qui n'a même plus ce petit ver sous l'écorce, qui est sec et dont l'écorce se détache.
Clovis, mon pin parasol laisse couler de son tronc de la résine, est-ce normal?
Vous vous rappelez peut-être autrefois les jameurs ou les résiniers dans le sud-ouest qui incisaient le tronc des pins pour récolter la résine. Alors on n'en voit plus et les pots de résine maintenant, aujourd'hui, ne sont plus que les noms des terrains de camping en général. Mais il est vrai que les conifères ont de curieuses méthodes pour se défendre. Le pin parasol peut parfois être attaqué par une larve xylophage. Cette larve va dans le bois et va creuser des galeries. Alors que fait notre pin pour se défendre, il envahit la galerie de résine. C'est comme ça d'ailleurs qu'on va retrouver parfois dans de l'ambre des insectes qui ont été prisonniers il y a quelques centaines de milliers d'années. Donc le conifère, en toute logique, produit de la résine. Même pour une petite piqûre parfois d'insectes sur le tronc, il va produire de la résine. Ce n'est donc pas grave, c'est tout à fait normal.
Alors on sort des conifères. La question de Jean, il y a beaucoup de garçons qui posent des questions ce matin. Jean se demande comment éliminer les perce-oreilles qui mange ces dahlias.
Alors j'adore le perce-oreille parce que
j'aime pas trop.
Oui, mais c'est l'ami du jardinier.
Ah bon?
Parce que le perce-oreille est une bestiole qui va se nourrir de déchets végétaux. Il va tuer quantité d'autres insectes très nuisibles pour le jardin. Alors effectivement, il peut s'attaquer parfois à quelques fruits. Je pense aux abricots. Oui, il mange les pétales de fleurs. Mais la petite bestiole n'est pas si désagréable que ça. Et puis on l'appelle perce-oreille. D'ailleurs, je vous ferai remarquer. Avez-vous vous-même, Laetitia, répondu honnêtement une seule fois eu les oreilles percées
par un perce-oreille? Non.
Jamais. Alors comment s'en débarrasser? C'est simple. Vous prenez une tige, un tuteur en bois ou en métal que vous enfoncez dans le sol, là où poussent vos dahlias. Vous prenez un pot en terre, vous voyez le pot, vous mettez de la paille ou des feuilles mortes à l'intérieur et vous renversez le pot par-dessus la tige. Vous avez donc ainsi constitué une sorte de nid qui va attirer le perce-oreille le soir. Il a boulotté vos dahlias, le soir, hop, il rentre dans le pot pour se protéger. Il vous suffit simplement le lendemain de prendre le pot, de le retourner. Le perce-oreille dort à l'intérieur. Le retournez pas n'importe où, chez votre voisin prioritairement, mais vous avez pu ainsi vous débarrasser d'un perce-oreille sans le tuer.
Et on vous garde bien vivant, vous, Alain Baraton, parce que vous revenez demain. À demain, c'était La Main Verte.